Bonsoir à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis absolument ravi, nous sommes ravis tous les deux, le grand Simonier Laurent et moi-même, le jeune Padawan Raphaël, de vous retrouver ce soir pour Noise Pollution numéro 105. C'est le retour de l'émission hebdomadaire de métal sur la bande FM lyonnaise. Nous étions absents la semaine dernière, mais nous avions un bon motif.
Tout à fait, nous étions au Hellfest, nous en parlerons tout à l'heure pour vous raconter un petit peu nos aventures hellfestiennes au Festival de l'Enfer.
Exactement.
Ce ne fut pas du tout l'enfer.
Oui, mais ce ne fut pas de tout repos non plus.
Non, mais ce fut du pur bonheur.
Du pur bonheur, des concerts exceptionnels, d'autres un peu moins exceptionnels, mais en tout cas, trois jours vraiment en dehors du temps, une véritable parenthèse enchantée qui nous a donné le sourire, qui nous a épuisé, mais qui nous a donné le sourire pour la suite. Le retour était un petit peu difficile, mais voilà, nous sommes de retour. J'espère que tout va bien pour vous. Et avant de commencer, je voudrais dédicacer tout spécialement cette émission à un de nos auditeurs fidèles qui nous écoute au fin fond de sa Bretagne. Il nous écoute régulièrement depuis quelques semaines. Il s'agit de Long John Merou. Il devait venir au Hellfest et manifestement il a un petit problème de gasoil. Donc voilà, je lui dédicace cette émission spéciale retour de Hellfest.
Alors on va ouvrir en musique bien évidemment Noise Pollution.
Ah, il vaut mieux, oui.
Avec la news de la semaine, puisque le groupe israélien Orphaned Land vient de sortir un nouvel album. Alors c'est un petit peu exceptionnel, puisque d'habitude Orphaned Land met entre
10 et 7 ans, ouais.
Ouais, 10 ans en moyenne presque pour sortir un disque. Non, effectivement entre 6 et 8 ans. Et là il a fallu 3 ans, un peu plus de 3 ans pour je crois bien, pour sortir ce All Is One. Donc nouvel album des Israéliens qui pratique au départ un death metal ultra progressif et oriental. Je crois qu'on veut dire ça comme ça. Le nouvel album est une énorme surprise. Il s'appelle All Is One. Une énorme surprise. Pourquoi ? Parce que il y a de gros changements musicaux chez Orphaned Land, notamment dans la structure des morceaux, puisque ils abandonnent le métal un peu bizarre, progressif, avec des morceaux longs, un peu complexes, pour des morceaux raccourcis, plus courts, plus accessibles,
plus tranchants.
Enfin, ouais, plus accessibles, plus radio. Presque, voilà.
Ah.
Mais.
Ça reste bien quand même.
Ah, ben attends. Donc, le growl, puisqu'on se rappelle que, le chanteur, faisait un peu des growls à la death metal, surtout au début, de moins en moins d'ailleurs. Et du coup, là, il y a un seul morceau sur lequel apparaît des voix, growlées.
C'est celui que tu vas mettre.
Non.
Ah mince.
Je vous le passerai peut-être. Et, donc tout le reste est en chant clair. Alors, sinon, effectivement, la qualité est là. C'est toujours aussi beau, avec pas mal d'influences orientales. Ils ont enregistré à trois endroits différents, notamment en Turquie, toujours avec des gens de multiples influences, parce que c'est un groupe qui défend la paix. Ils sont à contre-courant de la société israélienne, quand même. Il faut rappeler ça. Donc voilà, c'est un très bon groupe. Je vous laisse découvrir le morceau de Simple Man, extrait du nouvel album des Orphaned Land.
We'll be right back.
Voilà donc un extrait du nouvel album des Israéliens d'Orphan Edland. L'album s'appelle donc All Is One. Et ce morceau est assez représentatif de l'album. Vous avez vu un peu ces violons pour le côté oriental sur ce morceau. Voilà, c'est un peu différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant.
Ok, on va écouter ça. Moi, je l'ai pas encore écouté, mais je suis très curieux. On va attaquer un petit peu notre page Hellfest avec le groupe qui a clôturé ce festival. Il s'agit donc des Suédois de Ghost. Alors sur la programmation, ils étaient pas prévus à cette heure-là. Ils étaient prévus au milieu de la
soirée,
de la vallée, hein, la tente dédiée aux stoners, toutes ces choses comme ça. Et ils ont échangé leur place avec Danzig, Glade Danzig, qui avait en fait un impératif horaire. Il devait absolument prendre l'avion pour aller à Londres. Il jouait le lendemain en concert. Donc Ghost a clôturé le Hellfest avec un concert que je qualifierais presque de mémorable. Enfin, c'était vraiment
incroyable
pour clôturer le Hellfest au milieu de la nuit comme ça. C'était vraiment très très impressionnant. Je vous propose un extrait du tout premier album qui a été sorti en 2010 à l'époque, hein, sur le label Rise Above, le label de notre ami Lee Dorian, le leader de Cathedral. L'album c'était Opus Eponymous et le morceau c'est Ritual. les Suédois de Ghost, donc, qui ont clôturé avec vraiment très très grande classe, donc, sur la main stage numéro 2, le festival du Hellfest, la semaine dernière. On a encore des étoiles plein les yeux.
Ouais,
c'était énorme. Donc voilà, le Hellfest, donc, c'était la semaine dernière, pendant 3 jours, donc, sur la commune de Clisson, non loin de Nantes. Nous étions près de 112 000 cette année au Grand Timonier.
Oh, c'est pas mal, finalement.
Oui, c'est pas mal. Sachant que la journée du samedi, hein, c'était la journée ZZ Top Kiss, a été la journée la plus chargée de l'histoire du Hellfest.
D'ailleurs, c'était chiant au possible, hein, parce que quand il y a trop de monde, on peut pas s'approcher des main stage, les deux scènes principales. Et c'est un petit peu dommage, ils veulent faire de l'argent et on les comprend, mais voilà, c'est un peu pénible. Surtout quand on, alors c'est pas pénible pour quand on voit les autres concerts dans les autres lieux, puisque, alors, ils sont aussi pleins et si on y va tôt, on arrive à les voir correctement. Mais quand on se ramène, comme ça a été mon cas, moi, ce samedi soir, à aller vouloir voir la fin de Kiss. Alors certes, c'est un public qui est pas serré, donc on arrive à s'incruster, mais c'est pas très pratique.
Ouais, tout à fait. Et on était vraiment à la limite, hein, le samedi, en termes de circulation sur le site. On était vraiment au taquet. Moi, je voulais aussi évoquer les problèmes de parking autour du Hellfest, parce que moi, je ne dormais pas sur les lieux, donc j'étais véhiculé, je venais tous les jours me garer aux alentours. La journée du samedi, j'avais jamais vu ça, hein. Pourtant, ça fait 6 ans que je le fais. Là, il y avait des voitures qui étaient garées sur la route, littéralement. Voilà, mais ça ne remet pas en cause l'ensemble, hein, du Hellfest, qui était une immense réussite, et on peut être fier d'avoir un tel festival dans notre beau pays.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est le même site que l'année dernière.
Exactement.
Avec un seul, enfin deux gros changements. La Warzone, qui était la tente dans laquelle on a la scène hardcore, avec un peu de punk aussi, elle a perdu sa tente et s'est retrouvée à l'extérieur un petit peu plus loin, dans un endroit qui était pas mal, un peu petit, mais...
vraiment trop petit, quoi.
Mais qui débordait tout le temps, ouais.
Et qui était difficile d'accès en plus, c'est-à-dire qu'il y avait un seul point d'entrée. Sur ce truc, sur cette scène-là, et ça faisait vraiment un goulot des tremblements. Alors, c'est un peu le problème.
Mais bon, je pense qu'ils amélioreront l'année prochaine, mais c'était pas mal de l'avoir mis en extérieur.
Tout à fait.
Et du coup, la vallée, la tente a grandi, puisqu'elle a récupéré, je crois, la tente de la Warzone. Donc, du coup, voilà, pour la scène Stoner Doom, qui est une scène qui monte au niveau public, ça a été agréable. Et la zone bouffe avait aussi une nouvelle configuration cette année.
Ouais, c'était pas génial, ça, j'ai l'impression. Hein, de réunir au même endroit tous les stands de bouffe.
Ouais,
je sais pas, ça faisait des queues assez grandes.
Alors, au niveau des groupes, qu'est-ce qu'on a vu?
Alors, les groupes.
Le vendredi, pour moi, j'ai commencé par 7UX, donc on les a vus à Lyon, moi j'avais raté, c'était vraiment sympa, 10h30 du matin, ça mettait vraiment la
pêche. Génial, vous étiez combien?
Ah non, on était bien 200.
Ah ouais, quand même.
Oui, il faut se lever, voilà, c'était pas facile. Ensuite, vers midi, j'ai eu la première claque de la journée, il y en aura deux, c'est les Américains de Vector, donc groupe de trash, qui fait une sorte de techno-trash, donc c'est inspiré par les années 80-90, la vague Coroner, Watchtower, les groupes comme ça là, qui faisaient un trash ultra technique avec un chant très très difficile d'accès pour le grand timonier que je suis, hein, parce que c'est proche du growl, mais c'était impressionnant. Ils ont une technique, c'est un groupe de dingue.
À noter que le Hellfest, enfin l'organisation du Hellfest, a payé l'aller-retour de Vector uniquement pour jouer 45 minutes à midi, hein.
Ouais, c'est un groupe qui est culte, qui est en train d'avoir vraiment un buzz, comme on dit dans le monde moderne. Et donc, du coup, ils ont eu raison d'investir, parce que ça permet, c'est la première fois qu'on voit ce groupe, hein, ils ont sorti 2 albums. Donc voilà, c'était la première grosse claque, et la deuxième, ça a été le concert de fou.
Twisted Sister.
Ah ouais, non mais un truc
Twisted
incroyable.
Twisted Sister, donc ils étaient déjà venus en 2010, hein. Ouais. C'était 3 ans qu'ils n'étaient pas venus, et là, je veux dire, quelqu'un comme Dee Snider, donc qui est le leader, hein, de Twisted Sister, est une personne, enfin, est un leader charismatique absolument incroyable, comme on n'en fait plus. Enfin, je veux dire, le public lui mange littéralement dans la main, avec des morceaux qui sont bien sûr de véritables tubes hard rock, quoi, on est bien d'accord. Mais je sais pas, il dégage vraiment quelque chose, hein.
Par rapport à tous les autres vieux qu'on a pu voir ce jour-là, notamment Def Leppard, Whitesnake, ou même Saxon, c'est le seul qui vieillit, moi, je trouve très bien, au niveau du jeu de scène, parce qu'il court,
et
puis au niveau de la voix, parce que contrairement à David Coverdale de Whitesnake qui est à la ramasse, lui, Dee Snider, il assure jusqu'au bout. Et il s'est passé un moment assez incroyable sur We Are Gonna Take It, un morceau de
Stay
Hungry, et ils l'ont chanté chanter, ils ont fait chanter le public deux fois. Ils s'arrêtent, le temps de se remettre en place pour chanter le morceau suivant. Le public a repris une nouvelle fois le morceau, obligeant le groupe à recommencer. Et là, je pense que ça a beaucoup ému Dee Snider, qui s'est senti porté par le public, ce qui est assez rare, hein, que ça marche dans ce sens-là, que c'est le public qui pousse à faire rejouer un morceau.
Et donc, ils l'ont rejoué. Ouais.
Ils ont refait une troisième fois la fin de ce morceau en faisant chanter tout le monde. C'était
un moment
énorme.
Très magique. Voilà. Ouais, vraiment.
Sinon, c'était plutôt sympa. Moi, j'étais très content de voir Creator, de voir Def Leppard, même si le show était très mou.
Def Leppard, c'était... Alors, ne croyez pas tout ce que dit le grand Timonier. Def Leppard, c'était, n'ayons pas peur des mots, pénible.
Non. C'est, alors,
comment tu peux expliquer qu'au milieu du show, hein, qui dure 1h30, te passe 10 minutes d'un DVD?
Alors, il y a cette scène de 10 minutes qui sert à rien et qui est inutile. En dehors de ça, Def Leppard ne fait que ce qu'il ne sait faire, c'est-à-dire son hard rock. Et donc, ils ont joué Hysteria comme est l'album. Donc, si vous aimez l'album, vous avez eu l'impression de réécouter l'album, certes, joué sur scène un peu différent parce que les chœurs sont pas tout à fait pareils. Mais voilà, ils allaient pas se transformer en groupe de trash. Donc, ils ont été à leur image. Moi, ce que je trouve, c'est que 1h30, c'est long. Parce que il y a pas de morceau qui accélère le jeu, notamment quand on joue tout l'album Hysteria, qui est un album qui est quand même un peu plan-plan.
Exactement. Voilà.
Par contre, ils ont joué en intro des morceaux incroyables, notamment l'instrumental qui est sur High and Dry, je crois, qui est énorme, que j'avais jamais entendu. Et donc voilà, ça faisait quand même plaisir. Ils ont fait des trucs pour leurs fans.
Ah, ils ont fait plaisir au grand Timonier, c'est
voilà.
Bien.
Non, mais bon, après c'était un peu mou quand même.
Ouais, faut quand même noter que moi, donc je me suis tapé donc la perf de Def Leppard en entier. C'était voilà, j'étais dans un état semi oui, et pour finir, je me dis non, c'est pas possible, je peux pas finir là-dessus. Donc, je me suis rendu dans la Warzone pour le concert qui clôture la journée de Sicko Vitale, donc du hardcore new-yorkais, mais typique, très très simpliste quelque part. Mais il y avait une énergie après le Def Leppard qui nous avait littéralement enterré, quoi. Mais Sicko Vitale, c'est presque le concert de la journée pour moi pendant 45 minutes, très 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 énergique, qui a vraiment reboosté tout le monde, quoi. Voilà.
Alors, le samedi, moi j'ai eu la chance de pouvoir me lever tôt.
C'était pas le cas de tout le monde.
Voilà, et de voir le meilleur concert du festival, pour moi, à 10h30 du matin, ce qui est pas gagné, le groupe Skindred, j'en passerai très bientôt du dernier album que je vais avoir bientôt. Voilà, donc c'est ce mélange raga métal, un truc de fou, emmené par Benji, l'ancien de chanteur de Boire. Il est arrivé à remplir la main stage à 10h30 du matin.
Ah, c'est une vraie
tout le public quasiment allait voir Skindred et pendant 40 minutes il a fait sauter tout le monde. Il faisait 12 degrés, il a demandé aux gens d'enlever leurs t-shirts, la moitié de la foule a enlevé les t-shirts. Enfin, c'est un truc de fou à 10h30 du matin un samedi. Moi je dis big up.
Ouais. Ah, oui, tout à fait, vraiment respect. La journée du samedi était un petit peu décevante en ce qui me concerne. Je retiens essentiellement deux perfs qui m'ont vraiment bien plu. C'est Witchcraft, ouais, les fameux suédois, hein, dont on a longuement diffusé leur dernier album Legend, qui est absolument génial.
Et on a découvert que le chanteur était très très bizarroïde.
Oui, le chanteur, donc déjà la perte de Witchcraft en elle-même est super bien sûr, mais le leader de Witchcraft m'a l'air extrêmement torturé, ouais, avec une attitude sur scène vraiment
pas rock'n'roll
du tout, avec on le sentait mal à l'aise. Je sais pas s'il est très habitué à faire des concerts, on le sentait vraiment pas bien dans ses baskets. Ça l'a pas empêché de délivrer une performance vraiment intéressante, mais visuellement c'était presque gênant. Il y avait vraiment un contraste énorme, par exemple avec son batteur qui était littéralement déchaîné. Le contraste était vraiment incroyable. Et le deuxième concert, et je ne comprends pas que le grand Timonier n'est pas enchaîné là-dessus. Le concert du samedi, c'était tout simplement Candlemass.
Ouais, tout à fait.
Ah, quand même. Ouais. Avec, alors malheureusement, Matt Stevens au chant.
Matt Slevens
au chant, oui, pardon. Donc le chanteur de Crooks, hein, essentiellement. Enfin, il a joué aussi dans Therion, il a joué dans plein de choses. Mais c'est quelqu'un qui chante très bien, on est d'accord, mais qui est presque un petit peu trop rock'n'roll pour Candlemass.
Par rapport aux anciens chanteurs de Candlemass, il est un peu en dessous, c'est vrai.
Un peu en dessous.
La prestation était bien quand même.
Ouais, ils ont fini sur Solitude et c'était juste magique, quoi.
Non, on peut quand même noter aussi Accept avec un dernier morceau, le fameux Face à the Shark, chanté en duo avec Phil Anselmo de Pantera. Enfin, de Don, on peut dire même de maintenant. Ouais. Et là, c'était imprévisible.
Tout à fait. Alors, incroyable. Ce que j'ai cru comprendre, en lisant un petit peu des CR à droite à gauche, c'est qu'en fait, c'était pas prévu. C'est-à-dire que Accept jouait et Phil Anselmo, le grand fan qu'on connaît, hein. Apparemment, il était déchaîné sur le côté. Et donc, ils l'ont tout simplement invité, le dernier morceau, à jouer avec eux. Il était un vrai gosse, hein. Ouais, franchement, ça fait plaisir de voir, parce que Phil Anselmo, c'est quand même un peu une légende tout de même, de le voir autant déchaîné. traîner tel un gamin, quoi.
Voilà, et puis bon, on terminera le dimanche avec pas mal de bons concerts. On a parlé de Ghost tout à l'heure. Volbeat, qui était en tête d'affiche et qui était un peu faible pour une tête d'affiche au niveau public en France, a quand même vraiment bien assuré.
Oui, on est d'accord.
Voilà, et on a vu les Spiritual Beggars, qui était vraiment très très bon.
Le concert du dimanche.
Voilà, Graveyard, qui était très bon. The Sword, qui était très bon. Les Prousses aussi. Voilà, plein plein de choses. Le compte rendu est en, mon compte rendu, pour le coup, est en intégralité sur le blog de Radio Canu. Peut-être que le grand Timonier, le petit Padawan va nous en faire un aussi.
Oui, bah, quoi, avec mon délai habituel. Donc, avec un peu de chance, vous l'aurez en septembre.
Voilà. Donc, du coup, on est impatient de l'année prochaine.
Ah oui, on est vraiment impatient d'avoir la suite. À noter quand même une triste nouvelle, tu l'as pas évoqué pour le dimanche, et moi je voulais finir là-dessus. C'est que donc Clutch a annulé sa performance qui était prévue au Hellfest, et ainsi que toute sa tournée européenne suite à un décès dans la
famille du chanteur. Heureusement, deux jours avant, ils ont joué à Lyon et pour un concert énorme.
Pour le Trans Club. Et ce qu'il faut noter donc, c'est que encore une fois, le créneau de qui était dédié à Clutch a été investi par Dawn.
Qui a fait deux concerts.
Philon Zelmo était déchaîné, était ravi, et on a eu le droit à vraiment une date un petit peu événementielle quand même. C'était quelque chose de totalement improvisé avec des morceaux de I Hate God, des choses comme ça. Très très sympa, et surtout une reprise de Walk de Pantera, enfin pas le morceau en entier, mais qui a vraiment fait son petit effet, quoi.
Alors retour à la musique avec le dernier album des Black Sabbath, donc qui s'appelle 13. On en a parlé un petit peu justement avant l'émission spéciale sur le Hellfest. Album qui divise, parce que certains attendent que Black Sabbath refasse les premiers albums, sauf que c'est plus possible aujourd'hui pour un groupe comme ça de réinventer quelque chose. À l'époque, ils ont inventé quelque chose, donc voilà. Si vous enlevez cette attente là, cet album est vraiment très bien. Moi j'ai mis une ou deux écoutes avant de l'apprécier, mais voilà, c'est un très très bon disque de Black Sabbath, comme ils peuvent en faire un à leur âge et aujourd'hui, quoi. Voilà, il faut replacer ça dans le contexte. Le morceau que je vous propose s'appelle Live Forever, Black Sabbath. Voilà donc les Black Sabbath avec ce nouvel album 13, donc je vais le faire en français, ça sera plus simple, avec le morceau Live Forever. Oui, ça m'évitera d'être ridicule. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon album que j'écoute avec plaisir, sans rechercher à avoir un album fondateur de quoi que ce soit, puisque on faut quand même arrêter de délirer, on n'est plus dans les années 70, on est en 2013. Ce sont des papis qui font du hard rock, du heavy metal même.
20h31, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous écoutez Noise Pollution, chapitre numéro 105. On va continuer avec une petite nouveauté, quelque chose d'un petit peu plus dynamique, hein, parce que là, pour l'instant, on est un petit peu plan-plan, hein, tout de même. Ton Black Sabbath, c'est pas fait pour me réveiller.
J'ai du doom aujourd'hui, plan-plan.
Heureusement, j'ai un peu de death, hein, parce que sinon, ça sortait pas, hein. Allez, nouveauté, donc c'est un album qui est sorti au mois de mai. Il s'agit des Parisiens de... je peux le faire en français, Darkness Dynamite ou Darkness Dynamite, hein, ça dépend. Le mort deuxième album qui vient de sortir, Under the Painted Sky, donc c'est du metalcore, du deathcore parisien, c'est tout à fait ce que tu aimes, toi, au grand timonier.
Donc c'est pour ça que je t'ai enfilé le disque, hein, tu noteras.
À noter quand même que c'est des petits parisiens qui sont signés sur le label Metal Blade, tout de même, hein, label de Amon Amarth, notamment. Voilà, ils ont été pris, en fait, à leur début, c'est Stéphane Buriez, donc le guitariste de Lootblast, et aussi producteur assez célèbre en France, hein, qui les a pris un peu sous son aile, qui les a boostés, qui s'est occupé d'eux. À noter que le batteur, c'est aussi le batteur de Dick Rivers. Je trouve ça génial.
C'est énorme, quoi.
C'est génial. Donc le batteur de Darkness Dynamite, c'est aussi le batteur de Dick Rivers.
Oui, c'est un peu par hasard qu'il est devenu batteur de Dick Rivers.
Ouais,
il en parle dans l'interview dans Rockard.
Ouais, il y a une interview dans Rockard, il explique tout simplement, il était dans le même studio en même temps que Dick Rivers, et leur batteur était en retard, il a pris la place, hein, tout simplement, hein, pour enregistrer l'album de Dick Rivers. Voilà. Je vous propose donc un extrait donc de cet album. Le morceau s'appelle On Cloud 9, Darkness Dynamite. Hop, hop, hop. Voilà. Darkness Dynamite avec enfin, un extrait de Under the Painted Sky. Le morceau, c'était On Cloud 9. Donc voilà, c'est tout dans ce genre-là, hein, très, très travaillé. Bah, mais typiquement deathcore, metalcore. Hein. C'est pas sûr que ça plaise vraiment au grand timonier.
Non, pas du tout.
Non, alors, pas moi, du tout. Comme ça, c'est clair.
Ouais, on va retourner dans un des styles à la mode. Le deathcore, c'est un peu un style à la mode aussi.
Ah, complètement, oui.
Mais il y a un autre style à la mode depuis quelques années.
Laisse-moi deviner, c'est le heavy metal inspiré par Black Sabbath.
Voilà, tout ce qui
ouais
est... Grosso modo, tout ce qui est, et voire satanique, c'est-à-dire le revival occulte rock 70s. Hein, dedans, on a The Devil's Blood, dont le...
On avait. Parce que malheureusement,
on avait, mais le troisième album est sorti cette semaine. L'album posthume.
C'est pas vrai.
Ouais.
Ah, mais c'est une nouvelle, là, que tu me donnes.
Ouais, bah, c'est vrai, si tu le savais pas, je l'ai.
Tu l'as écouté?
Ouais, j'ai du mal, un morceau de 30 minutes. Je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est un peu difficile. Donc il y a plein de groupes comme ça qui sortent et moi il y en a un que j'adore qui s'appelle Blood Ceremony. On a déjà écouté un morceau, ce qui avait fait rire mon camarade parce que
ah oui, il y a de la flûte.
Dedans il y a de la flûte, ce qui est un instrument assez atypique dans le métal, on peut le dire.
Oui, je crois qu'on peut le dire, oui.
Ouais, il y en a pas.
Je confirme.
Donc c'est un groupe avec une chanteuse qui joue il y a aussi beaucoup de claviers en style orgamone, hein, parce que la chanteuse joue aussi de la flûte et de l'orgue. Si vous aimez ce style-là, donc dans la lignée à Devil's Blood, à tous ces groupes de rock occulte, parce que c'est comme ça il paraît qu'il faut appeler les choses, c'est vraiment le top du top. C'est leur troisième album, toujours sur le label Rise Above de Lee Dorian.
Il a vraiment du goût, cet homme-là.
Tout à fait. Donc Blood Ceremony, c'est le nom du groupe. Dit Eldritch Dark, c'est le nom de l'album et le morceau qu'on s'écoute, Lord Summerwhile. y a un morceau acoustique dans l'album et je l'ai passé, c'était pas prévisible, c'était pas prévu du tout, je veux
dire. C'est pas volontaire, oui, j'espère.
Non, parce que c'est pas du tout représentatif du disque, le morceau qu'on vient d'écouter. Donc, du coup, c'est une vraie erreur de programmation, mais je me rattraperai la prochaine fois. Les autres morceaux sont beaucoup plus électriques, vous imaginez bien. C'est pas un groupe qui fait de la musique acoustique, sauf ce morceau qui est au milieu de l'album et qui est calme. Mais c'est quand on se trompe sur le CD, voilà, ça donne ça.
Tu seras fouetté pour cela, en
continu. Non, mais on devrait passer des MP3, ça éviterait de s'embêter, on mettrait qu'un seul morceau, on pourrait pas se tromper, en fait. Donc voilà, mais enfin, l'album est vraiment super bien, et voilà, après tout, un peu de calme et d'acoustique dans Noise Pollution, une fois de temps en temps, c'est pas mal. Surtout que le petit Padawan a prévu de terminer Ultra Def.
Donc, oui, voilà. 20h42, il est temps de lancer le jingle! Et oui, c'est le retour de Support Your Local Team, la rubrique habituelle dédiée aux groupes locaux. Et oui, ça fait 3 semaines que vous n'avez pas eu le droit à votre rubrique. Donc voilà, elle est de retour. Il s'agit aujourd'hui d'un groupe de Villeurbanne, un groupe qui sort son 2e album sur le label Brennus. Il s'agit des Stolen Memories, donc du heavy metal avec une grosse tendance progressive. 2e album qui s'appelle Blind Consequences. Je propose tout de suite, hein, pour pas perdre de temps, pour se réveiller après cette oui. merveilleux morceau, je vous propose le morceau qui s'appelle Greed. Voilà, Stolen Memories. Smile. Les Villeurbanais de Stolen Memories avec un extrait de Blind Consequences. Le morceau c'était Greed, deuxième album. Donc voilà, pour du heavy metal progressif. Moi, au niveau de la voix, je trouve un petit peu que ça ressemble un peu à Megadeth. Mais enfin bon, là, du personnel. Ouais.
Ouais, il faudrait qu'ils trouvent un vrai ingénieur du son.
Oui, c'est souvent le cas sur ces autoprods là. Bon, ils sont sortis quand même chez Brennus, leur deuxième album. Ils avaient sorti en 2010 leur premier qui s'appelait The Strange Order. Je vous renvoie directement sur leur page Facebook. Vous tapez Stolen Memories directement sur le moteur de recherche. Mais vous le faites après avoir tapé Radio Canu Noise Pollution pour tomber sur la page officielle de l'émission. N'hésitez pas à nous mettre un petit like pour nous suivre dans toutes nos aventures. J'en profite très très rapidement pour faire les concerts. Moi, c'est un petit peu calme, hein. C'est vrai, on est en pleine période estivale. Enfin, on va la commencer. Il y a quand même un concert, ça se tient mardi soir au CCO. Il s'agit des retours des Brésiliens de Soulfly. Quand même, c'est une belle date, hein, pour les fans.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des fans de Soulfly?
Ouais. Ben, tu sais que, je vais t'avouer quelque chose au
grand timonier. Quelque chose. T'as bien aimé les débuts de Soulfly?
Oui, j'ai bien aimé, oui. Mais c'était il y a longtemps. J'étais jeune, à l'époque. Non, mais je pense que j'y serai.
Ah.
Parce qu'en première partie, il y a tout simplement Abyss.
Ah oui, j'ai vu.
Le groupe instrumental de Cholet.
Ouais, de Cholet, qu'on aime bien.
Qu'on aime bien, tous les deux. Et oui, donc, il y a Abyss en première partie de Soulfly. C'est tout à fait extraordinaire.
Et toi, t'as jamais vu Abyss?
Eh non. Oui, non, c'était passé au Hellfest l'année dernière à 10h30 du matin. Surtout, c'était le dimanche. C'était très compliqué. Une autre date intéressante, le 23 juillet au CCO. Il s'agit des Comeback Kids. Voilà. Je parle de ces deux dates-là rapidement. Je voulais vous parler aussi des nouveautés parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont très intéressantes. Il y a le 5 octobre 2013, le fameux festival qui se tient à Serpès, c'est non loin de Vienne, ça s'appelle Serpès en rock, parce que la tête d'affiche est tout simplement Vulcain cette année. Donc un festival intéressant. Le 9 octobre 2013, au Ninkasikao, ça a été signé cette semaine, il s'agit des méchants finlandais de Fintroll. Il y a des fans, je le sais. Le 16 octobre, donc quelques jours plus tard, ça se passe à Grenoble dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Noctambule. Nous avons le retour des sémillants Suicidal Tendencies tout de même.
Ouais, ils jouent pas chez nous, quoi.
Ils jouent à Grenoble, c'est pareil.
Ils font 15 dates en France au moins, là.
Oui, mais ils jouent à Grenoble, c'est pareil.
Ouais, c'est pas loin, Grenoble.
C'est pas loin. Attends, on peut faire le déplacement tout de même. Je voulais parler aussi d'une date qui est tombée aussi cette semaine. C'est le 5 novembre. Alors, c'est le même jour que les Proust au Ninkasikao, malheureusement. Il s'agit au Transborder de la date de Steven Wilson. Steven Wilson, donc c'est le leader de Porcupine Tree notamment, qui fait une date en solo donc au Transborder. Une information aussi pour le Grand Timonier, le 12 novembre à la Halle Tony Gardier, nous avons les Queen of the Stone Age.
Ça, on le savait.
Et si on savait, donc en première partie, il y a tout simplement Master of Reality. Ça a été annoncé.
Oh putain.
Ouais, voilà, je savais que ça te ferait
plaisir. Alors, à savoir quand même qu'ils sont très proches, hein, puisque le leader de Master a pas mal bossé sur les albums de Queen of the Stone Age. Voilà, bon.
Et voilà. Ça fait une deuxième bonne raison pour y aller, hein, c'est ça?
Ah d'ailleurs, c'est pour moi plus intéressant de voir Master of Reality que de voir Queen of the Stone Age.
Tu seras donc pas en retard, c'est ça?
Non.
Et le 22 novembre, c'était la dernière dont je voulais vous parler. Ça se passe à Bourg-en-Bresse, à la Tannerie. Donc, décidément, c'est une salle qui bouge pas mal, la Tannerie. Il y a eu pas mal de concerts intéressants. Et là, c'est très intéressant. Il s'agit du retour des Norvégiens de Satyricon.
D'accord, un peu de black metal.
Ah oui, excellent, Satyricon.
Ouais.
Bah, tu adores, non?
Ah, exactement.
Bon, voilà.
Alors, je vais te parler de quelqu'un qui a chanté dans un groupe qu'on a aimé dans les années 90, dont le frère est décédé.
Ah oui, bon, c'est.
Et qui a du mal à vivre le décès de son frère depuis.
Oui, je peux le comprendre.
ça a été difficile.
Ça fait 20 ans hein, qu'il est mort.
Ouais, ça fait 93. Ouais,
93, ça fait 20 ans. Ouais.
Donc, il s'agit de Oliva. Qui est donc qui était le chanteur et un des deux leaders de Savatage.
Donc John Oliva. Et son petit frère qu'on évoquait tout à l'heure, c'est Chris Oliva.
Donc voilà, je dis Oliva parce que l'album qui vient de sortir, qui est son premier album solo, s'appelle Oliva. Il avait déjà sorti des albums sous le nom de John Oliva Spain. Là, c'est son premier album solo. Il a repris encore quelques riffs qui traînaient qu'avait composé son frère. Et puis voilà, il a composé des morceaux autour. Ça s'adresse, je pense, essentiellement aux fans de Savatage, parce que la musique est très varié, c'est pas ultra métal, hein. Déjà Savatage c'est un groupe qui faisait pas mal de choses un peu progressives, donc on retrouve le côté progressif dans l'album d'Oliva, un petit côté Queen aussi, voilà, plein d'influences. Il y a même un morceau avec des cuivres. Bon, moi qui ai été un grand fan de Savatage, ça me fait toujours plaisir d'entendre des nouveaux morceaux d'Oliva, qui joue presque de tous les instruments, hein, sur ce disque et qui s'en sort vraiment bien. On sait que sur scène c'est plutôt une catastrophe.
Ouais, il a quelques problèmes avec les boissons.
Ouais, alors que sur disque c'est vraiment bien. Donc ça s'adresse aux fans de Savatage. L'album s'appelle Ways the Curtain et on s'écoute Big Brother. Voilà, donc Oliva, c'est sous le nom, ce nom-là que John Oliva vient de sortir un album solo. Raise the Curtain, le morceau c'était Big Brother, c'est donc l'ancien chanteur claviériste de Savatage.
Émission 105 de Noise Pollution en ce 28 juin 2013. Donc c'est l'occasion pour moi d'évoquer l'année 2005, comme on le faisait précédemment, hein, donc l'année correspondant à l'émission 2005, une année bénie, et oui, d'entre toutes. Pardon ?
Ah bon ?
Oui, oui, tout à fait. Et pourquoi cela ? Puisqu'en 2005, Balls Thrower, la quintessence du death metal britannique, nous a sorti son dernier album, le 8e. Il s'agit de Those Once Loyal. Donc, excellent disque. De toute façon, Balls Thrower, tout ce qu'ils ont sorti est absolument excellent.
Pour les amateurs de death metal.
Pour les amateurs de death metal, un death metal extrêmement, je dirais, basé sur les riffs. Donc, quelque chose de très, très, je dirais, très, très puissant. Ça part pas dans des grands solos, des choses comme ça. C'est vraiment du riff. Balls Thrower s'est fait une spécialité de parler que d'une chose, la guerre. Ah, la guerre sur toutes ses formes, mais c'est une vision historique des choses.
Tu veux dire qu'ils disent pas j'aime faire la guerre,
j'adore non, tuer c'est
les
pas
gens.
Ça.
Non, c'est pas ça.
J'adore
ça
tuer les gens. Excellent. Non, ils évoquent en fait les conditions des soldats, tout un tas de choses, toutes les formes de guerre à travers l'histoire. Ils ont évoqué les croisades.
Il y avait de quoi faire du coup.
Ah oui, mais ils ont même évoqué parce qu'au départ de leur carrière, Balls Thrower, ils étaient très inspirés par l'univers Games Workshop, c'est l'univers des jeux de rôle. Donc ils ont même évoqué les guerres du futur quelque part, voilà. Et ce dernier album, Those Once Loyal, et c'est un album qui est dédié à la Première Guerre mondiale, donc il parle beaucoup de la Première Guerre mondiale. Pour vous faire découvrir ce groupe phénoménal, Balls Thrower. Non, mais si vous ne découvrez pas, je vous propose un morceau qui s'appelle oui. Granite Wall, Balls Thrower. Les Anglais de Bolsrower, extrait de leur 8e album, le morceau c'était Granite Wall. Donc le grand timonier me disait, mais comment ça, ils ont splitté tout ça? Non, non, Bolsrower n'a jamais splitté. Et donc en 2005, ils sortent leur 8e et dernier album. Pourquoi c'est leur dernier album? Parce que tout simplement, Bolsrower, quand ils se sont formés dans les années 80, en 86 plus exactement, ils ont dit, on arrêtera Bolsrower le jour où on sortira l'album ultime pour nous, le chef-d'œuvre ultime. Et il s'agit de cet album pour eux qui s'appelle Those Once Loyal. Il faut savoir qu'en 2009, ils ont tenté d'enregistrer un 9e album. Et en fait, ils ont enregistré des trucs et ils ont dit non mais attends, en fait c'est moins bon que ce qu'on a fait sur le dernier. Donc ils ont arrêté leurs efforts. Alors ils continuent à tourner. On les a vus notamment au Hellfest il y a 2 ans où ils nous avaient mis un parpaing dans la tronche quoi.
Enfin à toi parce que moi je devais être à autre chose.
Ouais, autre chose. Le Bolsrower en death metal, voilà, c'est un nom à retenir quoi, Bolsrower.
C'est la fin de cette émission. On retrouve tout de suite Negative Outlook, l'émission de punk de la plus rebelle des radio stations. On va terminer avec un petit morceau du groupe irlandais Gamma Bomb. Le dernier album s'appelle The Terror Tapes et je leur dédicace le morceau. Ça s'appelle Metal Idiot. C'est un morceau contre les méchants fascistes et nazis.
Parce que. Non, attends, répète-le, c'est Metal Idiot, t'as dit.
Metal Idiot, ouais, mais justement, ça parle de méchants nazis. Je sais pas pourquoi. Metal, le titre s'appelle Metal Idiot. Nazis, non, mais je sais pas. Et j'ai lu les paroles du disque, écoute.
Bon, ok.
Voilà. C'est un groupe qui fait toujours un morceau, comme ça, un peu anti-fasciste dans sa programmation. Alors que d'habitude, ils parlent plutôt d'horreur. Hein, parce que c'est plutôt un truc autour des zombies, des choses comme ça. Ils font un morceau politique par disque, et c'est déjà pas mal.
Ouais, vous souhaitez une bonne semaine, hein?
Ouais.
Hein, de ce délicieux mois de novembre.
Ouais, c'est ça. Et puis donc la semaine prochaine
chapitre numéro 106.
Voilà. Bye bye.
Bye bye, bonne soirée.
Gamma Bomb.
Ciao.